faire pour travailler ça à la main.
Question très difficile. Quand j'ai demandé le Rav Benzion Abba Shaoul comment accéder à la Hanava, il m'a dit « Je ne peux pas parler d'une chose que je ne connais pas. » Je vais répondre à la même question, la même réponse. Oui. Quand on travaille à la Hanava, il faut regarder dans les bouquins de Moussar qui en parlent. Tu prends dans Nusat et Charim, tu as tout un plusieurs chapitres sur la Hanava. Et voilà. Hein ? Non, mais la Hanava, il faut se battre très, très, très... C'est une grande bataille. Les techniques de travail de la Hanava sont marquées dans les bouquins de Moussar. Il y a aussi, comme je vous ai dit souvent, une série de livres en hébreu, il faut apprendre l'hébreu, du Rav Tobolski, s'appelle Sidrat Tikkun Amidot, la série de livres de Tikkun Réparation des Midot. Et là-bas, il y a un livre entier qui s'appelle L'Anavim Iten Hen. C'est un verset du roi Salomon. Aux humbles, Dieu donnera du charme. Là-bas, il donne toutes les techniques, les moyens, les histoires, et c'est des livres très, très, très grands. Un des trucs qu'on peut faire, ce que dit Rabbi Chaim Vital, il écrit « Comment être un bon juif ?» D'accord. Il dit une chose qui est marquée dans aucun autre livre, un truc que j'ai vu, que j'ai remarqué, que je n'ai pas vu dans d'autres livres, mais c'est vrai que c'est extrêmement vrai. Ne jamais dire des louanges sur soi. Ce n'est pas facile. Tu as toujours un truc à raconter sur toi que tu as fait intelligent. D'accord. Pas le raconter. Ça, c'est déjà un bon travail de Hanava. Ensuite, accepter quand on te fait du mal, carpette. Quand tu t'énerves, tu t'écrases. Voilà. C'est déjà pas mal. Ken, Joachim.
Sachant que Dieu décide de tout, est-ce qu'on doit s'interroger que tous les événements qui nous arrivent, qu'ils soient petits ou grands, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Je sais pas, comme par exemple...
Les signes.
Je me casse une jambe, je m'ouvre la main... Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir tout ça?
T'as la réponse? Tu peux avoir... Non, mais tu as la réponse. Si tu t'es ouvert la main, tu peux dire maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Tu t'es fait mal au pied, tu peux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Très dur pour nous de savoir. Très, très dur. Alors, il y a deux aspects dans ta question. Premièrement, est-ce que quand il nous arrive des choses dans la vie, est-ce qu'on doit y voir des signes? Deuxièmement, si oui, alors, comment expliquer un beau qui nous arrive au pied, un beau qui nous arrive à la main, etc. Alors, les signes, en général, c'est très dur de définir pourquoi une chose nous arrive. Il y a des fois, quelqu'un, c'est très intime, d'accord, c'est très... Quelqu'un peut voir un signe dans quelque chose. Il peut se tromper. Et faut certainement pas se baser là-dessus. Il faut regarder raisonnablement qu'est-ce qui est juste dans la vie et aller d'après ce que la raison me dicte. Première partie. Deuxième partie, quand un bobo m'arrive maintenant, est-ce que je peux savoir maintenant pourquoi ça m'est arrivé? C'est pas un signe, c'est vraiment un bobo, d'accord? C'est certain qu'il y a une raison. Mais il est très dur pour nous de savoir. Il y a des bouquins qui parlent un peu pourquoi quelqu'un est malade de ci ou de ça, mais c'est très aléatoire, c'est pas clair du tout. En général, chaque bobo qui nous arrive dans la vie, chaque problème, chaque souffrance, veut nous renforcer en émouna. En émouna. Parce qu'on comprend pas pourquoi ça arrive. Ça va mal. Et quand ça va mal, normalement, on doit lever les yeux vers Dieu et c'est ça le sens général de toutes les souffrances. Je l'ai raconté plusieurs fois, je la re-raconte parce qu'elle est vraiment très belle. À propos des signes. D'accord? Un couple. Bon, la moitié de l'autre. Trois quarts de la salle connaît cette histoire-là. C'est pour le quart qui ne la connaît pas que je la raconte. Un couple a marié leur dernier fils. Ils rentrent du mariage et ils voient sur la table du salon deux colombes blanches. Et hop, dès qu'ils entrent, les colombes s'envolent par la fenêtre, elles partent. C'est beau. On va marier notre enfant, deux colombes. Bon. Très intrigués par ce phénomène, ce signe du ciel, ils vont voir le Rav Eliashiv, le Gdolador, la grande génération. Et ils arrivent à rentrer, c'est pas facile de rentrer chez Rav Eliashiv, il a 100 ans. Le Rav Eliashiv a 100 ans, Blainara. Dieu lui accorde encore longue vie. Et il lui pose la question. Ravé Lachivre, réfléchis 10 secondes, je pense qu'avant de partir au mariage, vous avez oublié de fermer la fenêtre. Réponse d'un grand de la Torah. Tu comprends ce qui est, tu comprends, c'est trop compliqué. Cherche pas de signe. T'as des colons. Ben, la fenêtre était ouverte. Ils ont dû rentrer par la fenêtre, c'est tout. Il fallait la fermer. Oui, monsieur Arabe, mais c'est quand même bizarre que j'ai eu le mariage de mon dernier fils. À un moment, il y a comme deux colons. Ça ne m'arrive jamais dans le salon. Une blonde, les deux blondes, et tac, ils s'envolent. Ouais, écoute, on n'est pas là pour voir des signes. Nous, ce qu'on voit, on comprend. Ce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. Va pas chercher des trucs. Tu aurais pris un mekoubal, entre guillemets, à Sfarad, il t'aurait fait des tartines là-dessus. Est-ce qu'ils ont volé sur la gauche, ils ont volé sur la droite, ils ont... Baruch HaShem, donc il faut un juste milieu. Oui, Jaïs.
Ce soir-là, celui qui lui arrive une fois dans sa vie, il se prend des claques. À ce moment-là, il reçoit la claque, et après, il doit... ce qui a gêné dans lui, c'est qu'il interprète les signes.
L'interprétation du signe, Dieu envoie une claque, il veut effectivement qu'on interprète. Mais si on peut, est-ce que je peux interpréter pourquoi j'ai reçu une claque? D'habitude, non. Alors pourquoi je reçois une claque si ça ne sert à rien, je ne peux pas interpréter? Réponse, oui. La direction générale, elle est rapproche-toi de Dieu. Emouna, foi en Dieu. Parce que la souffrance, elle me fait toujours poser la question, pourquoi? Même un petit rien, je me tape le doigt. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelque part, c'est injuste. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça m'arrive? Je ne comprends pas, c'est un corollaire de foi en Dieu. Quand on comprend, il n'y a pas de foi, c'est logique. La foi en Dieu, elle est quand tu ne comprends pas. Notre monde est appelé dans Chazal la nuit. La Géoula est appelée le jour. Les nuits, c'est la galoute. On ne voit pas les bontés de Dieu. On ne les voit pas, elles sont là. Mais on ne fait pas. Dieu a une hadaga, une conduite du monde qui est voilée. Le jour viendra, on comprendra. Là, on dira, ah, je comprends pourquoi ce coup que j'ai reçu, c'était un grand cadeau de Dieu. Et la Shoah, c'est un grand cadeau de Dieu. Et tous les problèmes qu'on a, l'inquisition, c'est impossible. Comment je peux aujourd'hui, moi, dire la Shoah, c'est un cadeau de Dieu? Ce n'est pas un cadeau, c'est une malédiction terrible. Le jour viendra, on comprendra tout le pourquoi du comment, pourquoi Dieu agit ainsi. On remerciera Dieu. Aujourd'hui, on est emunatra, on a foi, on ne comprend pas. Alors, ça peut être une Shoah, ça peut être un petit coup à la main. Le petit coup à la main provient de Dieu, c'est clair. Et il vient me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors quoi? Il vient me dire, renforce-toi dans la non-compréhension. Ça veut dire la foi en moi. En Emouna. Alors peut-être on va peut-être épuiser ce sujet. C'est bon? Oui.
Non, parce que dans la Gemara, Shabbat, marqué quand même, c'est Mishéchal Berosh. Il y a beaucoup d'exemples là-bas. Un des exemples, Mishéchal Berosh, il y a la foi qui doit se montrer de quoi là.
C'est pas un signe. C'est pas un signe. C'est marqué, donc je traduis. Celui qui tombe malade là-bas, c'est marqué, qu'il se considère comme si maintenant on a déjà mis la corde autour du cou. La suite de la Gemara, c'est que il faut beaucoup d'anges, d'accord, beaucoup de protection pour être sauvé. Quand quelqu'un il est là-bas dans la même page, je me souviens bien, c'est marqué Nafal Torah Hadad Sakina. Quand le bœuf il est tombé, alors déjà on aiguise les couteaux. Ça veut dire quand il y a une série noire qui vient, c'est vrai que maintenant dans le ciel on te regarde et attention, je veux dire, le din, l'ange accusateur dans le ciel, il est en train maintenant de parler sur toi mal. Pourquoi tu es pour là qu'il y a des tuiles qui te tombent dessus? Fais attention, fais tchouva. Mais on me dit pas pourquoi. À moi de faire mon introspection personnelle et de voir qu'est-ce qui va pas chez moi. Qu'est-ce qui va pas? Quelqu'un vient de m'écrire maintenant. Il y a des tuiles sans cesse. Je peux lui dire pourquoi les tuiles arrivent. Je veux dire, fais l'introspection, regarde, prends Shulchan Aruch, regarde comment toi tu es compatible ou pas au Shulchan Aruch, et commence à faire tchouva, parce qu'il est clair que si tout va bien, il n'y a aucune raison que tu aies une tuile. À moins que ce soit Isur et Ahava. Il y a aussi une notion qui s'appelle souffrance d'amour. Dieu envoie des souffrances à quelqu'un qui est tzadik complet, qui n'a aucun péché, pour lui donner un supplément de mérite au Olamaba. Mais c'est pas notre cas, on est très loin de cela. Quand tu as pris Shulchan Aruch, tu as tout vérifié, puis tu es OK partout. Le Gemara dit, alors il y a encore c'est Bitul Torah. Si Bitul Torah, t'es OK partout, alors c'est Yisur et Ahava. OK, merci. D'accord, viens me voir. Le jour où tu arrives à la moitié du Shulchan Aruch, déjà on est content. Okay. Donc il y a, on doit faire tchouva, on doit se rapprocher de Dieu. Emouna, c'est dit maintenant, j'ai une foi en Dieu, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que je dois faire vu que j'ai Emouna? Je dois me rapprocher de Dieu, faire tchouva. Le but des souffrances est de nous faire avancer vers Dieu. Toujours. Alors, jamais autre chose. On a parlé l'autre jour de qu'il n'y a pas de punition. D'accord ? Ça n'existe pas de punition. Alors pourquoi Dieu m'envoie une tuile ? Il veut que je souffre bêtement ? Non. Dieu, il veut maintenant que je me rapproche de lui. Le moyen de me réveiller, c'est la souffrance. Le moyen aussi de réparer. La souffrance est une réparation. Mais évidemment, quand je me mets en situation de quête de Dieu et d'introspection, de voir qu'est-ce qui va pas chez moi, la réparation est beaucoup plus rapide. Oui.
Moi, je dois savoir pourquoi ça arrive à moi, qui fait, je sais pas, la tfila, j'étudie, alors qu'il y en a qui sont plage, à la gogo et tout, et la ville belge.
D'accord. Alors, ta question, c'est une question récurrente, et la réponse est récurrente aussi. Pourquoi moi, qui suis à Yeshiva, j'ai tout quitté, je fais mes prières comme il faut, je mange kasher, je suis la Torah, je me suis fait un bobo au pied, alors que l'autre qui est à la plage et qui fait les 400 cours, il va très bien, sans aucun bobo au pied. Même pas au pied, il roule en Porsche, d'accord ? Et moi, je n'ai même pas de vélo. Réponse. C'est marqué dans le deuxième verset, avant la fin, l'avant-dernier verset de Vaitranan, que Dieu paye les tzadikim et les rechaim. Mais seulement les rechaim, ils leur payent tout de suite. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils leur payent ? Les avérotes qu'ils ont fait, les péchés qu'ils ont fait ? Non, les mitzvot. Chaque des copains là, gogo, comme tu dis, qui ont fait 400 coups au bord de la plage, ils ont fait quelques mitzvot dans leur vie. Ils ont une fois la tzedaka en faisant la grimace. Ils ont jeûné à Kippour. Ils ont, je sais pas moi, ils ont rendu service une fois à une grand-mère. Ils ont fait, Baruch HaShem, ils ont un bon cœur. Ils ont fait des choses bien. Mais ils ont tellement de mauvaises actions que dans le ciel, ils sont considérés comme haïs par Dieu. C'est-à-dire qu'eux-mêmes haïssent Dieu, ça ne s'intéresse pas. Dieu, j'ai rien à faire. Au contraire, j'ai la haine des religieux. La haine des religieux et la haine de Dieu, ça va ensemble d'habitude. Et ils préfèrent être payés dans ce monde. Alors on ne paye dans ce monde les mitzvot qu'ils ont fait. Au lieu d'avoir Olam Haba, ça veut dire Dieu lui-même, ils reçoivent une Porsche. T'imagines un peu comment on les roule, les pauvres. D'accord ? Une Porsche, ça ne sert à rien. Dans quelques années, elle ne vaut rien, ta Porsche. Elle a la ferraille. Alors que Dieu, c'est la Porsche des Porsches, si je peux m'exprimer ainsi, d'accord ? C'est le créateur de toute bonne chose au monde. Donc il faut choisir. Et Dieu paye Réchaïm dans ce monde, ne tarde pas à les payer. La Torah qui dit ça, Moshe Rabbeinu dans son livre, que Dieu ne tarde pas à payer les Réchaïm.
Les Réchaïm, ils ont le droit d'être riches.
Non, on peut être riche. On peut être bien aussi. Mais un tzadik qui souffre, c'est à peu près normal. Parce que la souffrance qu'il a, c'est pour réparer les petits péchés qu'il a. Comme ça, il arrive au Olam Haba clean. Il peut être riche. Je n'ai pas dit qu'il faut ne pas être riche. Riche, c'est dangereux. C'est un autre sujet. Est-ce qu'il faut être riche ou pas ? C'est un pouvoir. Un pouvoir, si tu l'utilises en bien, c'est bien. Sinon, ça peut être dangereux. Par contre, je finis juste ma phrase. Par contre, les Rechaim, alors normalement, c'est des vrais Rechaim, des vrais ordures, des vrais anti-dieux, normalement, ils doivent avoir la vie pépère. Bien. Comme ça, Olam Haba, ils arrivent, wallo, plus rien. C'est terrible. Mais c'est comme ça, et ça arrive. Oui.
Comment on peut dire que, par exemple, que ceux qui sont anti-religieux ne s'aiment pas forcément Dieu, mais ça dépend peut-être que les religieux ils leur ont transmis pas comme il faut ou qu'on leur a donné une mauvaise image de la religion.
Pourquoi ils ont la haine des religieux ? Dis que ça m'intéresse pas. Pourquoi la haine ? La haine c'est une haine, comment c'est marqué exactement ? Je crois que c'est le Télim 83. Il y a un Télim qui se balade ici. Passons un Télim là-bas. Très actuel. Pégimel, c'est 83. C'est le Télim qu'il faut lire ces années. Shir Mizmor le Asaf. C'est le fameux, je vais raconter que durant la guerre du Golfe, ils ont interviewé, comment il s'appelle, Uri Zohar, d'accord, c'est le grand acteur israélien. Les intervieweurs n'ont pas laissé passer un mot. Parce qu'il y a un intervieweur et une interview vice, d'accord, je sais pas, vicieuse, d'accord, une interview, je sais pas quoi. et à la fin, il leur a dit, je vous chantez une chanson. Ah, ils étaient épatés. C'est un bachot, c'est un rabbin, d'accord. Il a dit, Shir Mizmor le Asaf. Shir, chanson, Mizmor, cantique à Asaf. Elohim. Aldomilach, Dieu ne te tais pas. Altecherash, ne reste pas silencieux. Valtishkot el, et de nouveau, ne reste pas silencieux, Dieu. Kine, voici, oyevecha yemayun, tes ennemis yemayun, rugissent. Umasanecha nasurosh, et ceux qui ont la haine de toi, lèvent la tête. Alamecha yari mosod, contre ton peuple, ils sont en train de comploter. Et tiatsu al tsfunecha, ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble contre le peuple que tsfunecha, que tu approches de toi. Amo, ils ont dit, lechu, allons, venachidem migoy, on va les éliminer d'être un peuple. Loizacher, sham Israël od, et plus jamais le nom d'Israël sera rappelé. Etc., etc., etc. Aole Edom, l'Occident, Vishmaelim, les Arabes, Moab et Agrim, toute la région ici, etc., ils savent tous. À la fin, il est maudit, tatata, il disparaît un, qu'il disparaisse à l'un. Il vauche ou qu'ils s'assèchent, ils bahalou adéad, qu'ils soient terrorisés pour l'éternité, viarperou, veovedou, qu'ils aient honte et qu'ils disparaissent. Veovedou, et qu'ils sachent, qui attache imcha Hashem, que ton nom Hashem, levadecha, est unique, ailleurs un kolaretz supérieur, en haut, supérieur à tout, à toute la terre, à tout l'univers. C'est bien marqué ici. Voici tes ennemis rugissent. Ceux qui ont ta haine lèvent la tête. Contre ton peuple, il complote. Celui qui a la haine de Dieu, il a la haine d'Israël. Celui qui a la haine d'Israël, il a la haine de Dieu. C'est la même chose. Tu as des gens qui sont antisémites viscérales. Il ne sait même pas c'est quoi un juif. Il ne sait pas c'est quoi un juif. Il a la haine. Pourquoi ? La source de son âme, c'est dans le mal. Et le mal a la haine du bien.
Il y en a qui n'aiment pas trop la religion, mais qui sont sionistes.
Hein ? Qui sont ? Ils sont sionistes, alors ils ont un petit quelque chose à l'intérieur, mais ils ont aussi une haine de Dieu. Regarde, je vais expliquer comment ça se passe. Quelqu'un est né sur Terre, d'accord ? On va dire un juif. Un juif, maintenant, il a le choix dans sa vie. Il peut faire du bien et du mal. Quand il fait du mal, il attire sur lui un ruach hatum'a, un souffle d'impureté qui le fait haïr ce qui est kadosh. Tu as des gens, tu les mets ici dans la yeshiva, ils sentent comme s'ils sont en enfer. Insupportable. D'ailleurs, tous, quand ils viennent chez la première fois, ils ont peur. C'est quoi ? C'est tout à Touma qu'ils ont bouffé toute leur vie maintenant, qui dit « Non ! Insupportable ! Insupportable ! » Il va à Ben Yehuda, je respire. Moi, tu mets à Ben Yehuda, je me sens dans l'enfer. Je ferme les yeux, comme ça, je me sens dans l'enfer. Je sens les démons à côté, le feu, les flammes. J'arrive à Yeshiva, ah, le goût du Gan Eden. Qui est normal ? Ça dépend où tu es. Si tu es dans la Touma, tu aimes la Touma, c'est ce à quoi tu es branché, c'est ton oxygène. La Kedusha pour toi est insupportable. Dans le Baal Tshuva, où beaucoup de juifs sont à mi-chemin. Moi, je me souviens que je revenais de France, d'accord ? La France, c'est le bain de Touma. Tu rentres là-dedans, faut aller au mikvé, d'accord ? Je prenais la Gemara, j'arrive pas à étudier. C'est dur, j'ai pas envie, je m'endors dessus, je n'ai même pas envie de la force d'ouvrir la Gemara. C'est dur, ça me dégoûte. J'ai trempé une semaine là-bas dans la Touma, dans la boue. Comment tu peux avancer maintenant, lire la parole de Dieu ? Ça ne marche pas ensemble. Et quand la Kedusha, tu prends l'avion, tu arrives en France, les premières secondes, tu es en état de choc du mal qu'il y a. Au bout d'un moment, tu t'habitues. Hein. Au bout d'un moment, quand tu rentres dans les égouts, au début ça sent mauvais, puis après une demi-heure, tu ne sens plus rien. Toi-même, tu sens mauvais déjà, d'accord ? C'est comme ça. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui sont anti-religieux sont gamards ou terminés, c'est des démons. Non, mais ils ont en eux des forces touma, c'est évident. Tu vois, des fois, la haine, terrible. La haine, de quoi ? Comme les peuples ont envers Israël. C'est exactement la même chose. C'est le même principe exactement. Tu as un microcosme dans Israël et tu as un macrocosme dans le monde entier. Pourquoi des goïms, ils ont la haine d'Israël ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Un pauvre peuple qui veut survivre. C'est tout, sur sa terre qui lui appartient à ses ancêtres. Entouré de milliards d'Arabes, de centaines de millions d'Arabes, qui ont des terrains partout, voilà, des déserts énormes. Allez-vous installer là-bas, il vous faut ce coin de terre-là. Et le monde entier est avec eux. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qui ? Quoi ? Laisse-moi vivre. Idem dans le monde israélien. T'as quelques religieux qui disent la Torah, ça te dérange tellement. Combien de manifs, de machins, parasites, vous n'allez pas à l'armée. C'est ça qui va changer. Quelques soldats balourds avec leur période comme ça qui vont changer ton armée. T'as 30% d'Israéliens qui ne vont pas à l'armée déjà. 30%. C'est quelques 2% qui te changent quelque chose. La haine. Écoutez la radio sans cesse. J'ai vu une fois, il y a 20 ans, j'étais à un séminaire israélien, il y a 25 ans. J'ai vu un kibboutznik qui l'a fait tchouvarin, il dit, chaque fois que je vois la radio, j'entends qu'on parlait des religieux contre. Je dis, c'est pas possible, vous allez voir ce que c'est. Il a fait tchouvarin, bon, Hachem. D'accord. Ça fait l'effet inverse, mais c'est rare. C'est rare.
Comment leur donner une image
positive ? Celui qui a la haine. Nous, regarde, nous on doit tout faire pour faire Kiddush Hashem. On doit se comporter bien. Hier, on a parlé maintenant d'orthodoxes qui se comportaient mal. C'est très mauvais. C'est Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est-à-dire que Dieu, il est prêt à pardonner tout. Mais pas Chilul Hashem. Chilul Hashem ne peut être expliqué que par la mort. Rabbi Yehuda dit aussi par Kiddush Hashem. Mais c'est quoi? C'est quoi Chilul Hashem? C'est que un orthodoxe, voilà, dans la rue, je sais pas moi, il y a une vieille dame qui rentre dans le bus, il ne se lève pas. Il baille sans mettre la main devant. Il se cure le nez. Alors qu'ils font ça toute la journée. Mais le religion le regarde. S'il ment, s'il vole, s'il sent pas bon, encore pire. Encore pire. Oui, Rafi.
C'est normal parce que le fait qu'il soit religieux, il représente beaucoup.
Exactement. Il a plus de responsabilités. Exactement. Pour ça que Dieu dit, tu représentes mon nom, donc attention. Et moi, je suis prêt à pardonner toutes les bêtises que tu fais, mais quand tu viens et tu souilles mon nom, Chilul Hashem, souiller, profaner le nom de Dieu. Dégage, tu mérites. Toute la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est faire Kiddush Hashem. C'est la raison même de notre vie, hein.
Non, mais pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de religieux, enfin, moins que ce qu'il devrait y avoir, parce que ça demande beaucoup de responsabilités.
Il n'y a pas de religieux, la vraie raison. Il y a deux raisons. À la base, il y a eu un mouvement de penseurs anti-religieux qui connaissaient la Torah. Et qui ont vraiment des grands réchaïnes, des grands, il n'y en a plus aucun de ceux-là. Les grands réchaïnes, il y a un siècle, d'accord? Il y a un siècle et un siècle et demi. L'Askala. Qui se sont battus pour ôter la Torah d'Israël. La source, je ne sais pas, c'est des âmes du Erev Rav, c'est des gens, c'est des âmes qui viennent du Erev Rav. Erev Rav, c'est des âmes qui sont entre le juif et le goy. D'accord? C'est marqué qu'à la fin de l'exil, ils vont beaucoup, beaucoup se multiplier. Ça, c'est les anti, les grands anti. Et eux ont créé des mouvements juifs athées, chose qui n'existait pas avant. Tel que le sionisme athée, tel que le Bund, tel que le Nili, il y avait ouais, tout ça, l'Echou Nelcha, l'Echou, Bet Yaakov, l'Echou Nelcha, Bilou, le Bilou, d'accord, etc. Tous des mouvements athées, d'habitude sionistes, parce qu'il fallait bien donner un petit coup, quelque chose de juif, si tu deviens athée, tu n'es plus juif, il n'y a plus rien, contre la Torah, mais une bataille de haine terrible. Terrible. Ces gens-là sont morts. Il y a quelques, aujourd'hui, grands haïsseurs de la Torah, mais eux, ce n'est pas par idéalisme. C'est par amour du ventre, amour des ta'avot, de leur désir. Et comme je l'ai dit, vu qu'ils sont une source de la Touma, ils continuent comme ça. Quelle était la question ? Si c'était ?
Je pense
pas que tu vas demander maintenant. Je pense pas que tu demandes aujourd'hui un non-religieux dans la rue. Pourquoi t'es non-religieux? Il dit, je crois pas en Dieu d'abord. Bon, ok, mais c'est trop dur. Il va dire, c'est trop dur, il me casse les pieds, machin, tout ça. Et ils vont pas à l'armée. D'accord? L'argument israélien moyen. D'accord? La vraie raison, il a pas envie de se casser la tête, c'est tout. Voilà, laisse-moi me casser tranquille. Quoi, je peux aller en boîte maintenant? Comment je peux me retenir? Pas possible, c'est tout. Manger cachère, c'est une galère. Shabbat, on se trouve de congé, je vais aller à la mer. Ça, c'est 99% des gens. Maintenant, quelqu'un qui est moitié-moitié, et on va dire un jeune homme de 18-20 ans, qui se dit oui, non, peut-être à tout rappeler, mais il voit que c'est un grand programme, c'est vrai. Absolument un grand programme. Et alors? On peut se désister maintenant, tu vois maintenant que tu as une mission. Tu es âme Israël. Tu portes le nom de Dieu dans le monde. Et lui va t'aider. Et la Géoula est proche. Et ça demande, c'est vrai. Tu dis, ah, moi, je préfère pas prendre de risques. C'est crétin. On appelle ça la technique Myriam. Myriam, son père, s'est dit comme ça. Son père, c'est Amram. Pharaon a fait un décret de tuer tous les mâles. Qu'est-ce qu'il a fait, Amram? C'est le grand de la génération. Il a dit, c'est comme ça, je divorce. Je ne vais pas amener des enfants pour qu'on les tue. Sa fille Myriam, elle vient, lui dit, mais papa, ton décret est pire que celui de Pharaon. Pharaon a décrété que sur les mâles, que tu décrètes et sur les mâles et sur les femelles. Elle dit, t'as raison ma fille, il s'est remarié avec sa femme, et il a amené au monde Moshe Rabbeinu. Toi tu dis, quelqu'un il va dire maintenant, moi j'ai peur de rentrer dans la Torah parce que je vois que c'est tellement important, j'ai tellement une mission importante, je préfère me désister. C'est ça que je voulais dire? Voilà, bon, c'est ça. Enfin, me disait, oh, tu te désistes, mon vieux, ben, c'est pire. Au moins, quand tu essayes clopi-clopant, tu fais la moitié, oui, moitié, non, tu as gagné au moins une moitié. Et la moitié que tu gagnes, mon cher ami, elle est éternelle. L'avérote qu'on fait, il y aura une facture. D'abord, on peut faire tchouva. Si on ne fait pas tchouva, il y a une facture. Une fois qu'on paye la facture, terminé. Il n'y a plus rien. Dans l'éternité, c'est mort. Tu as payé, tu n'as plus aucun péché. Tes mitzvot, elles sont éternelles. Je l'ai raconté 40 000 fois, je vous le répète. Mitzvah, c'est 4 lettres. Mem, tzadik, vav, hei. Vav, hei sont deux dernières lettres du nom de Dieu. Mem, tzadik, dit la Kabbalah, en akbash. Akbash, c'est l'alphabet à l'envers. Aleph égale taf. Bet égale shin. Gimel égale resh. Dal égale kou, etc. Mem, tzadik, en akbash, ce sont les lettres yud et puis hei. Parce que mitzvah égale yud, kei, vav, qui est le nom de Dieu. C'est haya, ovevye, c'est éternel. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité éternelle. Elle restera toujours. Le mal, il n'est pas éternel. Le mal, il disparaît un beau jour. Donc, quelqu'un fait du mal, autant de mal qu'il a fait, il plonge sa peine, terminé, bye bye. Reste la mitzvah qu'il a fait. Quelqu'un dit, je ne veux pas retourner dans cette galère parce que j'ai peur de me ramasser toutes les galères, tous les enfers et toutes les tuiles qui peuvent me tomber dessus. D'abord, il ne faut aucune mitzvah. Donc, pour l'éternité, il n'aura rien. Et payer, il payera de toute façon, on ne peut pas se désister. Il payera pour tout le mal qu'il a fait. C'est marqué Shigegat, Talmud, Ola Zadon. Celui qui dit, je ne vais pas étudier comme ça, je ne saurais pas. Il n'est pas Shogeg, il appelé Zadon, il appelé Mézid. Il appelé volontaire. Donc, quelqu'un qui sait que c'est la vérité, au contraire, qu'il aille, et Dieu l'aidera. Et surtout, chaque chose mauvaise, il y a une tchouva qui est possible. Au contraire, aujourd'hui, il y a une grande aide du ciel. Il y a la tchouva qui est facile. Et ça n'existait pas des tchouvas pareils il y a 40 ans. Ça n'existait pas. Si tu voulais faire tchouva, il fallait rentrer chez les chassidim. T'imagines ? Même aujourd'hui, comme ça, c'est pas facile. Alors, à l'époque, aujourd'hui, c'est facile. Et qui fait pas tchouva ? Que les crétins finis. Il va où le monde ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont plus rien. C'est mort. C'est mort. Comment tu peux ne pas faire tchouva ? Comment quelqu'un ne peut pas le choisir maintenant ? Dieu, et bientôt, ma chère, il est là. Et franchement, pas besoin d'avoir des lunettes pour comprendre que c'est incessamment sous peu. Oui, Jaïs.
Il y a un truc de dire, une fois par peur, on recule et oui. C'est une mission trop grande.
Oui.
Mais si des fois, quand on s'engage dans quelque chose, à partir du moment, comme par exemple à l'Yeshiva, on s'engage dans l'Yeshiva,
oui.
On s'est dit par exemple, j'étais là pour telle période, après on s'aperçoit que ce serait une sorte de lâcheté de lâcher en si bon chemin. Donc on culpabilise, on se dit, voilà, maintenant que je suis arrivé là, il va m'arriver des jeux aussi, parce qu'à chaque fois, il attend plus de moi. Donc si je fais ça, quoi, je suis perdant aussi.
Mais pourquoi culpabiliser ? Dis, je peux gagner tellement plus maintenant en restant. C'est tout ? Pourquoi prendre le côté négatif ?
C'est un vicieux parce que le problème initial, on est là pour telle chose. Donc, comme vous avez dit, on engrange tel mitzvot ou telles actions qui sont éternelles. Mais après, on est obligé de se dire que Hachem, il attendait plus que nous. Il attendait plus que ça.
Je ne sais pas pourquoi tu t'entêtes à vouloir voir les choses de façon négative. Si on prend une chose comme tu dis, la Torah devient un fardeau. Devient une.
C'est
hein?
On l'appelle Jou dans la Torah.
Ouais. Comme une femme. C'est marqué. L'olam issa ish ol benourav. Qu'un homme prenne le Jou sur lui quand il est jeune. Le Jou dit c'est isha, c'est une femme. C'est un Jou. Tu te marieras pas à cause de ça. Tu te marieras. Et les enfants, c'est pas un Jou. Mais t'es pas là pour glandouiller, t'es là pour faire. Et tu veux ce jour, mais c'est ça la vie. Être Oved Hashem, être quelqu'un qui sert Dieu, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Cadeau. Tu comprends l'égoïme combien nous jalouse. Tu sais combien on m'écrit, tout ça, ils se battent contre nous. Nous, on a ce cadeau que Dieu nous a parlé, on est son peuple élu. On doit prendre ça comme un fardeau. Mais c'est triste pour Dieu, c'est terrible. Pour lui donner ma Torah, tu fais. C'est une tristesse. Non, tu n'as pas pris le mot fardeau. Tu as dit comme ça. Tu as dit, si j'ai fait un peu. Maintenant, j'ai peur, je me dis, il faut que je fasse plus, parce que sinon, quelque part, je culpabilise et Dieu va m'envoyer une raclée parce qu'il attend plus de moi. Mais ni racler, ni culpabiliser. Tu peux. Non, pas assis. Non, ah non. Hein? Hein?
Faut que ça veut dire de ça que toujours ceux qui ont un dilemme, par exemple, rien par rapport à l'échival, je me dis, ça. Ceux qui ont un dilemme, est-ce que je dois continuer ou pas?
D'abord, comme je l'ai dit, regarde, Chazal, on réglé le problème très vite. Shigat, Talmud, Ola, Zadon. Quelqu'un qui veut dire, je ne vais pas étudier comme ça, je ne saurais pas. On attend moins de moi, c'est faux, on le considère comme Mézide. Mézide! On te considère que tu as fait 40 ans d'Yeshiva. Tu as fait un mois, tu as fait 40 ans. Tu as fait un jour, tu as pensé venir à Yeshiva, tu n'as pas voulu aller parce que tu dis je ne veux pas rentrer dans cette galère. C'est comme si tu es rentré et tu as tout appris et malgré tout tu as tout transgressé. Ça déjà c'est réglé. Ok ? Donc ça ne change rien.
C'est dans le shogeg, là,
mais tu n'es pas shogeg. Quelqu'un peut dire je veux le shogeg, le khatrila. Quelqu'un qui dit je veux le shogeg, il est mézide. S'il est shogeg, il est shogeg. Mais s'il dit je veux le shogeg, il est mézide. C'est un leurre. C'est le truc des singes japonais, les singes hindous, c'est comme ça, comment ils vont rien écouter. C'est une bêtise, d'accord. Ouvre les yeux, regarde, t'es pas une autruche. Maintenant, alors vu que tu es dans la galère, comme toi et moi, quel bonheur avons-nous de ramer. ramons encore. D'accord. Mais et sincèrement, c'est un grand, grand cadeau. Comprenez que tout à côté, c'est la débandade, c'est terminé. Et bientôt, Mashiach, très bientôt, on va faire le grand. Puis quelle chance on a d'être ici à Yerushalayim, être dans la Kudusha. Quelle chance. Combien de milliards de gens sont à côté de la plaque, plaque.
Quand on les écoute, hein, quand je vous dis, genre c'est très simple. On fait la moitié, on fait le travail, beaucoup on intervient, on fait nos livres, et après on s'en va. Genre, on fait notre travail, on s'en va. Ça marche pas comme ça. On s'implique dans un projet, à partir de là, on est pris dans un engrenage.
Oui.
Voilà, donc c'est pas aussi simple.
Mais quoi, pris, comme si t'as malgré toi, je suis pris dans... Non, vas-y, plonge dans le projet, vas-y, plonge.
Attends, des fois, même si on se dit on perd notre crew de juifs,
ouais.
Malgré tout, on se dit voilà, je dois continuer et tout, même si on sait que c'est la vérité, donc on plonge, on est ici, on a envie de plonger dans ce projet.
Oui.
Malgré tout, on est quand même, c'est pas aussi facile que ça.
Pas facile, parce que tu as des résistances, mais qui sont les résistances? C'est le corps, la paresse, le mal. Alors analyse, quelle est la partie en moi qui veut, qui veut pas. Définis, ok, je ne peux pas tout faire d'un coup, je comprends bien, Dieu aussi comprend. Mais je dois définir maintenant où est la vérité, où est le mensonge. Qui m'empêche en moi d'avancer? C'est la vérité, j'ai tout à gagner là-dedans. Et olam hazeh, olam haba. Je suis le peuple élu, Dieu m'aime, Dieu m'adore. Dieu m'a donné cette Torah rien que pour me donner encore plus. Et je suis jalousé par tous les ennemis d'Israël. Je peux faire tellement de bien à mon peuple et dans le monde. Donc la raison me dit, c'est ça. Ah, pourquoi je veux pas? Parce que, ah, oui, il y a une résistance. Paresse, c'est casse-pied. Quoi d'autre? Enfin, par paresse, pas grand-chose, d'accord? Paresse et envie, et voilà.
Mais même ça, c'est bien dur. Parce que qui dit que son Torah, c'est plus facile? C'est pas dit, ça. À part les réchaïm à qui on paye.
C'est vrai. C'est vrai.
T'as
raison. T'as raison. En plus, c'est un leurre. En plus, c'est un leurre. En plus, c'est un leurre. Rien quand on regarde au niveau des couples. Un type qui n'est pas Oved, qui travaille sur lui-même au niveau des Midot, il ne peut pas réussir son couple. Et quelqu'un qui n'a pas son couple réussi, c'est l'enfer sur Terre, mais l'enfer de l'enfer. C'est malheureux, c'est triste, c'est infernal, infernal. Et ça, c'est le monde entier qui bouffe ça. Jour, 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 jour. Ils ont l'enfer sur Terre. Rien que ça. Tu peux être dans la Kdoucha maintenant, rentrer à la maison, être certain que ta femme ne te trompe pas, que tu es aimé par ta femme, et qu'elle a une confiance mutuelle, parce qu'on est au Oved Hashem, on fait attention à nos yeux, à nos pensées, et on travaille nos midotes, et on s'entend, c'est le bonheur sur Terre. Rien que ça.
Ça veut dire, si vous dites que, il y a juste un comparatif, le bien, le mal, ça veut dire, à partir de quand, où est la limite où je pourrais dire, moi, dans ce que je fais, je suis chalem, quoi qu'il arrive. Ce que je fais, c'est bien. C'est-à-dire que même un gars qui fait 5 ans d'échec, qui fait 10 ans d'échec, et il se retire, parce qu'il faut qu'il vive, parce qu'il faut qu'il fasse autre chose, on pourra toujours lui reprocher.
Non. Alors, c'est une bonne question. Oui, à la limite. Bonne question. Notre but n'est pas de faire 20 ans, 30 ans, 40 ans d'échiva. Notre but, il est de faire Etzon Hashem. La volonté de Dieu. Donc, je dois analyser maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est pas facile, mais pas trop compliqué à savoir. Mais il faut aussi que quelqu'un, des fois, il n'a pas le droit d'étudier. Il est assis en train d'étudier maintenant, il ne veut pas se marier. Marie-toi! Bon, il se marie maintenant. Sa femme lui dit, Jaïs, rien à manger dans le frigo. Débrouille-toi. Pochéa, criminel, sors, femme Tagmara, va travailler.
On nous avait dit dans un cours qu'il y avait un rabbin, un hébreu qui a regardé la Bible d'Akiva, il avait vu, vous voyez, que dans le potentiel de quelqu'un qui était un bon juif, un juif normal, il y a le potentiel du gars de la dor.
Lui-même avait dit ça. Lui-même sur lui-même. Je me souviens plus de cette histoire-là, d'accord. Afrique, d'accord.
Il avait vu un potentiel de gars de la dor.
Oui.
Donc lui, il a fait un segment pour nourrir sa famille.
Il a bien fait. Regarde, c'est une décision qui est, c'est une décision grave. C'est pas ma femme m'a dit, Jaïs, rien, il y a rien dans le frigo. Sors travailler. T'as raison, tata. Je sors travailler. T'as raison, bobonne. Je sors travailler. Non, c'est pas comme ça. On va voir un rave. On va dire qui, quoi, comment, donc, où, il va analyser. C'est des questions extrêmement graves. J'ai un bahour ici, maintenant. Sa mère a fait une opération en France. Elle a réussi. Il sent que sa voix est faible, tout ça. Il décide, est-ce qu'il doit partir une semaine là-bas, en France, oui ou non? Il vient me voir dans mon bureau. Oui, non, je ne peux pas trancher. C'est une question extrêmement grave. Une semaine de Bitul Torah, c'est très grave. Maintenant, Kibbout Avem, c'est grave aussi. C'est le cinquième des 10 commandements, extrêmement grave. C'est trop dur pour moi. T'es allé voir ici le Rav Fuchs, le rabbin du quartier. Et il m'a dit, je suis surpris. Pendant 5 minutes, il m'a fait un vrai interrogatoire. Tac, tac, tac. Et je comprenais pas. Mais je dis, mais c'est une question grave, mon cher ami. Pour une semaine. T'en pas maintenant de quitter le collège. C'est une question extrêmement grave. Mon fils. D'accord, j'aimerais bien qu'il étudie. Oui, il est venu me voir il y a quelques mois, il dit, voilà, Parnassa, je m'en sors pas. Je lui dis, ben mon cher ami, tu fermes la Gemara, tu sors travailler. Alors, il y a des fois, il n'y a pas le choix, point barre. Quand tu vois que Dieu, maintenant on doit faire Retson Hashem, maintenant, quand on ne sait pas où est Retson Hashem, on va voir ces envoyés qui sont les grands d'Israël, qui vont trancher pour nous.
Donc alors, dans le cadre est toujours le même, tu peux étudier tout le temps. Et si Eva, il y a un besoin qui se fait, il y a plus à manger dans le frigo ou pas, et bien c'est une exception. Moi, je te...
C'est un exemple. Il y a d'autres exemples. Il y a quelqu'un qui chauffe le banc. Chauffe les bancs. Pas fait pour étudier. Il tient pas. Après une heure, il fait rien, il rigole, il regarde autour de lui, il casse tout l'ambiance du Beit Midrash. Dégage, pars. Qu'est-ce que vous faites ici? Chauffer les bancs, c'est pas un but en soi. Ok? Alors des fois, c'est pas le cadre qu'il lui faut. Il faut pas de la Gemara. Il y en a qui sont pas faits pour ça. Alors, on va faire de la halakha, faire du midrash, faire de la Kabbalah. Il a tout essayé, rien. Ok, alors, deviens serveur, sers le thé au Tamil Chachamim dans le Beit Midrash. Hein? Il va voir un gadol. J'ai toujours pris l'exemple de l'armée. Il y a les cuistots, il y a les commandos. Tu ne peux pas demander à un cuistot d'être commando. Ceux qui étudient toute la journée, ce sont les commandos. On ne peut pas avoir, Amisraël ne peut pas être fait que de commandos. Comme une armée ne peut pas faire que de commandos. Il faut aussi une infrastructure logistique derrière. Il faut aussi des cuistots. Qui sera commando et qui sera cuistot? Tu as un officier à l'armée, c'est le Bakoum, d'accord, Ktin Bakoum, qui va dire, il va te voir, tac, 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 il va te dire, voilà, tac, 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 en fonction. Nous, les officiers Bakoum, c'est les grands de la Torah. On va voir, il va te dire quoi faire.
Bah avant, dans le temps des machines les plus grands, nous étudions la Torah, nous étions assis sur la Torah. Alors pourquoi aujourd'hui, on n'est pas capable?
D'abord, je vous laisserai, il est beaucoup plus fort que ce qu'il y avait à une époque. Secondo, nous sommes aujourd'hui après une galoute, on est ratatiné, on est en petits morceaux. Troisièmement, nos âmes sont très petites. On n'est pas les grandes âmes qu'il y avait à l'époque. Donc on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de faire ça. C'est très dur d'allier les deux. Mais des fois, c'est nécessaire aussi. Donc, en sikoum, en conclusion, parce qu'il faut, terminer, plongeons pour aller ramer dans les galères de la Torah, Baruch HaShem, en étant heureux d'être là-dedans. Et si quelqu'un maintenant, il sent qu'il ne peut pas faire cela, qu'il aille voir ses rabbanim, mais s'il faut les grands de la Torah, qui vont l'aider à trancher en fonction de critères rationnels. Le vrai problème, c'est que on n'est pas rationnel. D'habitude, on a beaucoup de Yetzirah qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que c'est très important de prendre conseil chez quelqu'un d'autre, qui lui aura toujours un regard objectif. Oui, mon cher ami, on finit avec toi.
Dernière question pour finir en beauté. Est-ce que vous pensez que l'homme qui va devenir Mashiach est déjà vivant et parmi nous?
Parmi nous, là, je ne le pense pas.
Non, parmi nous, dans ce monde.
Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Baruch Adonai, l'homme.